Bienvenue dans le Pitch par Shareable, l'émission qui vous plonge dans l'univers passionnant des startups et des levées de fonds. Ici, nous donnons la parole aux entrepreneurs les plus inspirants et innovants pour qu'ils nous présentent leurs projets, leurs visions et leurs ambitions. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également à la rencontre des investisseurs et des fonds qui les accompagnent pour comprendre les enjeux et les défis de l'écosystème startup. Alors, êtes-vous prêt à écouter les histoires captivantes de ceux qui font bouger les lignes de l'entrepreneuriat ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitch par Shareable. Comme toujours, je vous fais découvrir des startups innovantes et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Pillet-Desjardins, cofondateur de Workpackers. Kevin, bonjour.
Bonjour Joseph.
Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de Workpackers, l'expérience nomade qui fait du monde ton nouveau bureau. Alors la promesse donne super envie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Bah ouais, avec plaisir. Workpackers, en fait, c'est une nouvelle marque d'hospitalité hybride qui mêle hébergement et coworking et qui veut être une véritable alternative aux hébergements marchands traditionnels. Donc, en fait, ce sont des lieux atypiques qui sont dédiés uniquement aux travailleurs nomades, aux entrepreneurs, aux entreprises et qui permettent de séjourner, travailler et partager de quelques jours à plusieurs mois au sein de workhouse, comme on les appelle chez nous, qui sont entièrement aménagés et équipés pour le travail à distance, qu'on soit seul, en couple ou même en groupe. Donc notre métier chez Workpackers, c'est d'opérer, distribuer, aménager, commercialiser des maisons qui se veulent atypiques et qui permettent en fait tout simplement d'offrir une nouvelle expérience de télétravail et qui redonne du sens à son équilibre professionnel et personnel. Et de par les engagements et les valeurs qu'on a chez nous en interne, On vise aujourd'hui des territoires d'implantation qui sont ruraux ou périurbains et qui nous permettent de nous ancrer dans les territoires et surtout de mettre en avant une forme de tourisme plus vertueuse, plus slow, de mettre en avant les acteurs locaux, mais surtout aussi d'accompagner les propriétaires et les destinations sur le remplissage pendant les ailes de saison. Et donc, en définitive, si je dois résumer Workpackers, c'est un réseau d'hébergement qui veut que ses clients dorment bien, mangent bien, travaillent bien et explorent bien.
Ok, écoute, moi j'ai toujours adoré cette promesse du mode de vie entrepreneur nomade, tu sais, cette nouvelle tendance de nomades digitaux. Je sais que c'est assez à la mode chez les startups, les freelancers, et j'imagine depuis le Covid, beaucoup plus chez les gens qui télétravaillent, tu en as un petit peu parlé, vous avez beaucoup d'entreprises qui utilisent du coup ce genre de solution.
Alors aujourd'hui, on a plusieurs typologies de clientèle, on a évidemment une clientèle B2C, peut-être qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure, et sur l'aspect B2B, les entreprises avec qui on travaille, elles nous contactent pour deux raisons. La première raison, c'est que potentiellement, elles veulent privatiser la maison pour réunir soit leurs équipes qui sont un petit peu éclatées dans plein d'endroits parce qu'elles offrent des conditions de travail qui sont soit hybrides, soit full remote. Et donc, elles réunissent toutes leurs équipes ou une partie de leurs équipes pour venir travailler en groupe, faire des activités sympas et séjourner dans une nouvelle destination. Mais on a aussi des entreprises qui nous contactent pour proposer ce qu'ils appellent en interne, par exemple, des tickets télétravail. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent de proposer des alternatives aux espaces de coworking un peu traditionnels, souvent aseptisés, qu'on peut retrouver dans les grandes villes, pour permettre à leurs collaborateurs d'aller se ressourcer, d'aller travailler au vert. Et donc, ils viennent négocier avec nous des tarifs avantageux pour leurs collaborateurs.
Ouais, je trouve ça super hein, de remettre un peu de lien humain dans les équipes qui sont éclatées en remote comme ça, et surtout pour fédérer et transmettre la culture d'entreprise. Comment toi, tu vois l'évolution de la demande sur ce secteur ? J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez, peut-être pas nouveau, mais ça a l'air de quand même d'exploser en ce moment.
Ouais, alors on est un peu entre deux eaux, j'ai envie de dire, en ce moment. C'est-à-dire que après le Covid, évidemment, ça a été un phénomène à la mode. Toutes les entreprises ont dû s'adapter et proposer à leurs collaborateurs, pas toujours par choix, mais souvent par contrainte au départ, de travailler depuis chez eux. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont continué à le mettre en place parce qu'en fait, ils se sont aperçus, et ils ont raison, que ça enlève en rien la productivité que peut avoir un collaborateur quand il n'est pas physiquement présent au bureau, mais on s'aperçoit aussi là dernièrement qu'il y a énormément d'entreprises qui avaient investi aussi dans des bureaux très chers, très beaux, très neufs avant la crise du Covid et qui aujourd'hui demandent à leurs collaborateurs de revenir. Par contre, moi, je suis convaincu qu'il y a toujours de plus en plus d'entreprises qui vont rester sur les modes de fonctionnement actuels, soit hybrides, soit full télétravail, et qui doivent rechercher et proposer à leurs collaborateurs de nouvelles alternatives, de nouveaux services pour attirer les talents, mais aussi les fidéliser. Voilà, et ça en fait partie. Aujourd'hui, le RTT, je pense, ou les chèques tickets resto sont plus forcément ce que recherchent les collaborateurs quand ils s'engagent dans une entreprise.
Ouais, un cadre de travail qui est agréable, ça fait un collaborateur qui travaille bien, si je comprends bien.
Bah oui, bien sûr. Et puis aujourd'hui, les gens, enfin moi le premier, mais sûrement toi aussi Joseph, ou les gens qui nous écoutent, on ne vit pas que pour son boulot, au contraire. Les gens ils ont aussi pris l'habitude potentiellement, alors là on est présent dans les Landes avec notre première workhouse, mais d'aller surfer entre midi et deux ou quand les vagues sont de bonne qualité. On préfère aller chercher ses enfants à l'école, pas à 18h, mais plutôt un peu plus tôt pour pouvoir s'en occuper mieux, plus longtemps et profiter d'eux. On n'a plus envie de passer, et ça c'est un peu du vécu, une heure ou une heure et demie dans les transports par jour pour aller bosser. Et donc au final, on a des collaborateurs qui sont plus épanouis, qui bossent peut-être un petit peu moins, mais qui bossent mieux. Et donc, au final, il n'y a rien qui a changé pour les entreprises d'un point de vue productivité.
Ouais, tu parles de vécu. Du coup, comment cette idée elle a germé dans ton esprit ? C'est quoi la création de ce projet ?
Cette idée elle a germé avec mon associé Jonathan avant le Covid. Pour être honnête, Jonathan, lui, il a eu l'occasion de télétravailler depuis l'Amérique latine pendant quelques mois. Et moi, j'étais en Floride pendant 3 ans. On bossait tous les deux pour des boîtes françaises, mais en remote. Et en fait, on s'est vite aperçu que, hormis le Starbucks du coin ou le café du coin avec du bruit, avec une souvent mauvaise connexion Wi-Fi, pas souvent très sécurisée, ou alors l'espace de coworking du coin qui est souvent un peu cher et où on s'aperçoit vite que, d'un point de vue lien humain et relations humaines, il n'y a pas vraiment de différence avec le bon open space qu'on peut connaître dans certaines entreprises. Il n'y avait pas énormément d'alternatives qui étaient proposées. Et puis, et là, c'est du vécu aussi, on s'est vite aperçu que malgré les idées reçues, travailler sous les cocotiers, c'est pas forcément gage de sérénité, de lien social. Et donc, on a voulu répondre en fait à ces enjeux de bien-être mental, de bien-être physique qui peuvent souvent en fait être liés à un sentiment de solitude ou surtout à de mauvaises conditions de travail. Donc ça, c'est pour la raison principale. Et Workpackers est surtout né aussi parce qu'avec Jonathan, on se connaît depuis 10 ans, qu'on est très bons potes, qu'on avait envie d'entreprendre ensemble, que lui vient du monde du conseil et du voyage d'affaires. Et que moi, je viens plutôt du monde de la CRM, du marketing, mais dédié aux acteurs de l'hospitalité. Et donc, tout ça mis bout à bout, Workpackers est né.
Ok, vous êtes vraiment dans l'équipe de choc dans un secteur porteur, donc bravo. J'ai une question pour toi.
On essaye.
Ouais, comment ça se passe du coup, si je suis intéressé, je dois aller sur le site et qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le processus ?
Alors aujourd'hui, nous, on a fait le choix de se distribuer, d'avoir une réflexion d'un point de vue commercialisation comme si on était un réseau déjà d'hébergement marchand. C'est-à-dire qu'on a mis en place donc évidemment un site internet, mais on y a aussi intégré un booking engine, c'est-à-dire que tu te rends sur le site internet, tu rentres tes dates, tu choisis ta chambre, tu veux venir seul, en couple ou avec tes potes, par exemple, en groupe. Et à partir de là, en 3 clics, tu peux réserver ta chambre et tu as accès directement à nos disponibilités.
Donc, on est bien d'accord, c'est pas un Airbnb, vous avez vos propres lieux et c'est vous qui les tenez.
Ouais. On n'est pas du tout une plateforme de distribution, on est vraiment des hébergeurs. Donc, l'idée, c'est que les maisons qu'on opère deviennent vraiment des maisons workpackers. On y met notre âme, on y met notre déco. Ça devient vraiment des maisons telles qu'on les a imaginées. Et nous, on est des hôtes. On accueille des clients directement dans nos maisons. Ces maisons, elles peuvent accueillir là aujourd'hui de 10 à 20 personnes. C'est évidemment des maisons qui proposent des services tels qu'on peut les imaginer quand on part en vacances, en couple, en famille ou avec des potes, encore une fois. Donc, il y a une immense piscine, il y a un immense jardin, barbecue, ping-pong, j'en passais des meilleurs. Mais surtout, nous, on y a ajouté en fait un kit télétravail complet pour chacun des voyageurs qui pourraient séjourner chez nous. C'est-à-dire que Dans chaque chambre, on y a mis un bureau, une chaise confort, un écran d'ordi pour avoir un double écran, un repose-pied, un réhausseur, des adaptateurs, enfin bref, tout ce qu'on n'a pas forcément chez soi ou qu'on n'a pas forcément au bureau pour pouvoir s'isoler, faire des calls et travailler dans des conditions optimales. On a aussi un bureau privé, vue piscine, vue jardin, qui est plutôt chouette quand on a besoin de s'isoler un petit peu. Mais il y a aussi un espace de coworking dans la maison qui permet à chacun, s'il le souhaite, de ne plus travailler seul, justement. Et c'est là la vraie alternative, comme je le disais tout à l'heure, au café du coin ou au coworking ou au fait de bosser chez soi tout seul toute la journée, c'est qu'on a le choix. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est de laisser le choix aux voyageurs qui viennent dormir chez nous.
J'ai vu les photos sur le site, franchement ça donne envie. Je pense que la vraie valeur de votre service, c'est sur cette offre, hein, cet aménagement pour travailler dans de bonnes conditions. Moi qui ai pourtant un bureau et un espace de travail assez sympa, ça n'a rien à voir avec ni ce que j'ai ici, ni ce que j'ai pu rencontrer quand j'ai fait des séminaires d'entreprise. Donc c'est réussi en tout cas, j'invite tout le monde à aller voir le site et les photos, c'est vraiment bien fait. Un truc que je voulais te demander, j'ai vu que vous allez ouvrir d'autres lieux, notamment en Espagne. C'est pour quand et comment ça se passe ?
Ouais, alors aujourd'hui, nous, on a une maison en propre, en opération, à Messanges dans les Landes, à quelques minutes au nord de Osgore. La maison se situe à 10 minutes en vélo grand max de l'océan. Donc, quand il y a des grosses vagues, on entend même l'océan depuis la maison. Et l'idée, c'est que on puisse faire pousser des workhouses un petit peu partout. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir ouvrir de nouvelles maisons dans d'autres territoires. Aujourd'hui, on réfléchit. Donc, notre objectif, c'est d'avoir une deuxième maison d'ici la fin de l'année. Et on a plusieurs zones un petit peu de prospection. En France, on a la Provence et les Alpes qui nous font un petit peu de l'œil. Je rêve qu'on ait à jour une offre, comme on l'appelle chez nous, téléski, c'est-à-dire télétravail et ski. Je trouverais ça royal après avoir une offre un peu télésurf telle qu'on l'a dans les Landes. Et Jonathan, qui est mon associé, qui est franco-espagnol, aimerait bien aussi qu'on trouve une maison en Espagne. C'est pas juste un caprice de sa part. Il y a une vraie réflexion derrière ça. C'est-à-dire que l'Espagne fait partie des pays qui ont mis en place beaucoup d'aides, aussi bien financières que de visas, etc., pour tous les travailleurs nomades, comme d'autres destinations d'ailleurs dans le monde. Pas encore en France, malheureusement, mais on espère que ça viendra. Et donc, on a pas mal prospecté vers Majorque et vers Malaga, par exemple, qui sont des destinations qui sont très prisées, très ensoleillées et qui permettent à tout le monde de pouvoir allier, comme je disais tout à l'heure, des activités un peu nature, un peu sportives et des conditions optimales pour pouvoir bosser.
Ok, on va suivre ça de près. Si on parle un peu de toi maintenant, quels sont les principaux défis auxquels tu as été confronté quand tu t'es lancé ?
En fait, on a mis, il y a eu deux vrais soucis, enfin, j'appelle ça soucis, mais deux petites problématiques qu'on n'avait pas forcément anticipées quand on s'est lancé. La première, c'est liée à l'immobilier, c'est-à-dire qu'on a mis un petit peu de temps à trouver notre première maison. La première raison, c'est qu'en fait, on est vite tombé sur des propriétaires qui étaient très séduits par l'idée et certains ont essayé de nous piquer l'idée, voilà, tout simplement. D'autres, au moment où le bail était signé de notre côté, se sont dit leur idée elle est pas déconnante et donc en plus de ce que je leur demande déjà, je vais aussi rajouter 20 ou 30% de commission sur leur chiffre d'affaires et donc on n'a pas trouvé ça forcément faire et donc en fait on a préféré patienter, on s'est octroyé le luxe de patienter. Et le deuxième souci, et que là, pour le coup, on n'avait pas vraiment anticipé, c'est qu'en fait, il y a un critère sur lequel on est intransigeant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, pour trouver des maisons, on a un cahier des charges qui est très précis, qui a un peu plus de 100 critères, aussi bien sur la localisation que sur l'éco-responsabilité un petit peu de la maison, que les aménagements qui sont proposés, etc. Mais il y a un critère sur lequel on ne négocie pas, c'est la connectivité avec la fibre. Et en fait, on s'est vite aperçu qu'en France, malgré un petit peu tout ce qui peut être raconté, il n'y a pas tous les territoires, même loin de là, qui sont connectés avec la fibre, et des territoires qui en plus correspondaient à nos cahiers des charges, encore une fois, territoires un peu ruraux, périurbains, près d'attractions touristiques, culturelles, naturelles, etc. Et donc, en fait, on est passé à côté de super opportunités. Je pense par exemple à un moulin en Provence, parce qu'en fait, la fibre était présente de l'autre côté de la rue, Mais lui, de son côté, bah, il avait la DSL comme on l'avait il y a 20 ans.
Ouais, ça, c'est rédhibitoire, j'imagine, pour travailler, évidemment.
Voilà. Bah, c'est clairement rédhibitoire. Même si aujourd'hui, les entreprises avec qui on a échangé demandent en moyenne ou en général à peu près 50 mégabits pour les collaborateurs pour qu'ils puissent télétravailler dans à peu près de bonnes conditions. Mais pour nous, c'était pas suffisant. On voulait vraiment que ce soit connecté à la fibre parce que quand les gens viennent chez nous, ils viennent comme s'ils étaient chez eux. Donc, il y en a peut-être qui vont vouloir se mettre un Netflix, d'autres qui vont écouter de la musique, certains qui vont faire des visios, etc., etc. Et en fait, si dès qu'il y a 3 ordi qui sont connectés et 2 téléphones, plus personne à Internet, c'est compliqué. C'est pas possible, ouais, clairement. Donc, voilà, ça, c'est le critère sur lequel on n'a pas voulu négocier. Donc, en fait, ça nous a pris un petit peu de temps à trouver.
Tout a l'air d'aller très vite pour Workpackers, là, en ce moment. C'est quoi l'ambition pour 2023? C'est quoi la suite?
Alors, l'ambition pour 2023, c'est d'étoffer notre catalogue. Aujourd'hui, c'est chouette de proposer une maison, mais c'est une maison qui peut accueillir de 1 à 15 personnes. Donc, on veut, pouvoir augmenter notre catalogue de destinations pour pouvoir proposer des nouvelles expériences. Comme je te le disais tout à l'heure, ici, dans les Landes, on est très, très orienté autour du surf, autour des activités outdoor, plutôt d'été, voilà. Moi, comme je te le disais, j'aimerais qu'on arrive à proposer d'autres types de logements qui proposent d'autres expériences, c'est-à-dire des fermes, pardon, ou des maisons à la campagne pour avoir quelque chose d'un peu plus rural, une maison potentiellement au ski ou à la montagne pour avoir aussi d'autres environnements, d'autres services qui peuvent être associés à. Mais surtout, notre vrai enjeu d'ici la fin d'année, c'est de lever des fonds. Donc, on se lance dans la première levée de fonds Workpackers pour pouvoir étoffer ce catalogue, continuer à développer notre offre commerciale, notre démarchage commercial et commencer à effectuer nos premiers recrutements pour nous aider justement à continuer sur cette belle lancée qu'on connaît actuellement et toujours pouvoir répondre au mieux aux demandes de plus en plus nombreuses de nos clients individuels et de nos clients B2B.
Vous cherchez à lever combien?
Alors aujourd'hui, on cherche à lever 350 000 euros.
Ok, sous quel délai?
D'ici la fin d'année, la fin d'année 2023.
Ok. Et du coup, le site internet, tu peux nous le rappeler?
Ouais, le site internet, c'est workpackers.co et voilà.
Super. Écoute, moi, je vais suivre ça de près. Je trouve ça super intéressant. Félicitations pour tout ce que vous avez déjà fait. J'ai hâte vraiment de voir la suite.
Merci beaucoup, Joseph. Et t'es le bienvenu, d'ailleurs, si t'as envie de venir passer quelques jours à la maison, c'est avec plaisir.
Avec plaisir, clairement. Je vois bien un séminaire d'entreprise chez Rebel, chez vous, avec grand plaisir.
Merci beaucoup, en tout cas.
Bon, un grand merci, Kevin. C'est un plaisir. C'est un plaisir de t'avoir reçu. C'était super que t'aies pris le temps de partager avec nous. Donc, je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup. À très vite.
Et on se retrouve à très vite pour un nouvel épisode du Pitch par chez Rebel.